Ça a commencé. L'émission a commencé.
Debout.
Énorme. Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances?
Le football, il a changé.
Good morning Tours.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Tours. Meilleurs vœux, chers auditeurs et chères auditrices. Il est 7h17, l'heure de la matinale des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission ce vendredi 10 janvier. Au programme ce matin, les flash infos présentés par Victoire Renard de Winter, suivi d'une chronique société de Juliette Huvet. On parlera de la relation entre la génération Z et le travail. Dans notre page internationale, nous vous emmènerons en Amérique, en Afrique et en Asie. Camille Amara Betati nous parlera de la Corée du Sud et de la crise politique que traverse le pays en ce moment. Camille Amara Betati, toujours elle, évoquera aussi la situation au Soudan. Les États-Unis ont accusé les forces du général Emeti de génocide. Ensuite, direction les États-Unis avec Jules Bourbotte autour de X et de Elon Musk. Qui dit nouvelle année dit bonne résolution. Alia Trabelsi nous initiera au Dry January. Quant à lui, Jules Frécon reviendra sur un documentaire au cœur de la rédaction de Charlie Hebdo. Ensuite, Léo Segura est allé à la rencontre de la communauté LGBT Tourangelle pour parler de leur sécurité. On passera ensuite au Flashport avec Mathis Maudet, avant de conclure cette émission avec le billet d'humeur d'Angelina Richard. Vous écoutez bien Good Morning Tour sur 99.5 FM. Il est 7h18, tout de suite, place aux informations.
Dix morts à Los Angeles, le feu ravage depuis maintenant 3 jours la mégalopole du sud-ouest des États-Unis. 400 pompiers en renfort arrivent pour maîtriser l'incendie. Trump, en revanche, s'empare de la catastrophe pour attaquer le gouverneur démocrate de Californie ainsi que Joe Biden, déclarant l'incompétence de leur gestion de crise. 2024, l'année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde depuis le début des relevés en 1850. Un chiffre donné par l'observatoire Copernicus, une hausse mesurée des températures est de 1,5 degré depuis l'ère pré-industrielle. 11 départements en vigilance orange jusqu'à 10h ce matin, 3 départements en alerte verglas et neige, le reste en vigilance crue. La vague de froid cause 2 morts, dont un sans-abri décédé d'hypothermie. Cette nuit, les températures allaient de moins 4 à moins 6 degrés dans le nord et le nord-Pas-de-Calais. Les transports scolaires et les lignes de transport périurbains restent toujours perturbés en ce vendredi matin. Le président français était au Royaume-Uni hier soir. Il a rencontré le premier ministre britannique Keir Starmer. Leur discussion portait sur le soutien prolongé à l'Ukraine dans la guerre. Le président ukrainien est lui en Italie. Il réclame plus d'aide et des troupes occidentales. Une position de soutien maintenue par Giorgia Meloni. Volodymyr Zelensky souhaite forcer la Russie à la paix dans un moment où Kiev craint de perdre de soutien des États-Unis avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. En sport, enfin, la victoire française en biathlon hier. La biathlète de 24 ans Paola Beauté remporte à la surprise générale le sprint d'Oberhof en Allemagne, la 4e et de la Coupe du Monde, étape de la Coupe du Monde.
Merci Victoire Renard de Winter, il est 7h20 sur Campus Tours. Ils arrivent sur le marché du travail et rien ne se passe comme prévu. La génération Z, ces jeunes nés entre la fin des années 1990 et le début des années 2010, bousculent les codes, mais peinent à s'intégrer dans un monde professionnel encore largement façonné par leurs aînés. Alors, pourquoi ce décalage? Juliette Huvet, vous avez creusé le sujet.
Oui, et pour commencer, il faut bien comprendre l'ampleur du problème. Une étude d'août 2024 menée par Intelligent.com, une plateforme spécialisée dans l'analyse du marché du travail et de l'éducation, a interrogé près de 1000 entreprises américaines. Résultat, 3/4 des employeurs se disent insatisfaits des jeunes diplômés qu'ils embauchent. Et ce mécontentement a des conséquences directes. 6 entreprises sur 10 déclarent avoir licencié un jeune diplômé, souvent quelques mois seulement après leur arrivée dans l'entreprise. C'est un chiffre important qui soulève de nombreuses questions, non seulement sur la préparation des jeunes au monde du travail, mais aussi sur la capacité des entreprises à accueillir cette nouvelle génération. Mais pourquoi ce malaise? Les recruteurs évoquent plusieurs raisons: manque de motivation, manque d'initiative, problème de communication ou encore une incapacité à résoudre des problèmes. Pourtant, au-delà de ces critiques souvent répétées, cette situation révèle surtout un choc de culture entre deux visions du travail radicalement différentes. Et c'est ici que tout se complique.
Alors justement, Juliette, c'est quoi la différence de vision entre la Gen Z et les générations précédentes ?
Elle se situe dans la manière de percevoir le travail lui-même. Pour beaucoup de jeunes de la Gen Z, le travail n'est pas une fin en soi. Les schémas traditionnels comme acheter une maison, fonder une famille, gravir les échelons d'une carrière stable ne font plus rêver comme avant. Au contraire, beaucoup cherchent un emploi qui a du sens, qui s'inscrit dans un équilibre plus global entre vie personnelle et professionnelle. Ils veulent un travail qui les nourrit intellectuellement et émotionnellement et surtout qui leur laisse de la flexibilité. En d'autres termes, ils veulent pouvoir travailler autrement, en phase avec leurs valeurs et leurs priorités. Face à cela, ils se retrouvent dans des entreprises où ces aspirations sont encore largement incomprises. Les structures hiérarchiques rigides, les horaires fixes ou encore le présentéisme sont autant d'obstacles qui freinent leur intégration. Pour ces jeunes, voir des collègues se satisfaire d'une routine immuable, 35 heures, maison, famille, peut même devenir un poids. Parce qu'on leur demande implicitement de s'y conformer, alors que dans le fond, ils aspirent à autre chose. Cette incompréhension crée un fossé qui peut être difficile à combler.
Et cette quête de sens, est-ce qu'elle est bien accueillie en entreprise, Juliette ?
Pas toujours. Beaucoup de recruteurs l'aperçoivent comme un manque d'éthique professionnelle ou de sérieux. Par exemple, le fait qu'un jeune salarié refuse d'effectuer des heures supplémentaires ou qu'il remette en question certaines pratiques peut être vu comme un manque de respect ou une absence d'engagement. Mais c'est une interprétation biaisée. Les jeunes ne manquent pas de sérieux. Ils refusent simplement de sacrifier leur vie personnelle pour un modèle qui ne leur correspond pas. Ce qui est intéressant, c'est que l'étude d'intelligente.com va même plus loin. Elle montre que lorsque la Gen Z est bien encadrée, par exemple en travaillant aux côtés de collaborateurs expérimentés, elle peut devenir une vraie force pour l'entreprise. Mais cela demande un effort des employeurs, il faut former ces jeunes, leur donner un cadre clair et surtout les intégrer dans des projets porteurs de sens. Malheureusement, trop peu d'entreprises prennent le temps de comprendre ces nouveaux talents et leurs attentes.
Donc au final, c'est juste une question d'adaptation des deux côtés ?
Exactement, exactement. Ce n'est pas qu'aux jeunes de s'adapter. Les entreprises doivent aussi évoluer. Et peut-être là, l'opportunité offerte par la Gen Z, repenser nos modèles de travail. Casser les codes rigides, intégrer plus de flexibilité et comprendre que la quête de sens n'est pas une menace mais une chance pour construire un monde professionnel différent. Cette génération, malgré ses critiques, a beaucoup à apporter, notamment dans des domaines comme l'innovation, la responsabilité sociale et la transition écologique. En 2025, 8 entreprises sur 10 prévoient encore d'embaucher des jeunes diplômés. Cela montre que malgré les tensions, le marché du travail a besoin de cette nouvelle génération. Mais si les entreprises ne revoient pas leurs approches, ces recrutements risquent d'être aussi décevants pour elles que pour ces jeunes. Ce débat est loin d'être terminé, mais il montre déjà que la Gen Z ne se contente pas de subir. Elle veut redéfinir les règles du jeu.
À nous tous donc de transformer cette dynamique en opportunité. Merci Juliette. Vous écoutez toujours Good Morning Tour, il est 7h24. Maintenant, l'heure à une petite pause musicale avec Somiso de Wonder Call.
They say she want my sugar cane, she dey twist my dress. Yeah, you sweet girls, yeah, you turn me up. And I'm in the grace for your body, so. Tell me what I've done to you. All I did was got to love for you. Tell me am I the one for you. Tell me am I the one for you. Tell me if I'm the one for you. Tell me am I the one for you. Because of you, I sing this song for you. She got ass like a baby. Give her. She won't put it on the table. Ah. Give me some of my label. Give her. Every time she have a label. Ah. Follow my hand, follow my foot, follow my two baby. Follow my wife, follow my hand, follow my foot, follow my two baby. Follow my wife,
exclusive at MajaExtra.com.
D'écouter Somiso de Wondercool. Il est 7h28 et vous écoutez toujours la matinale des étudiants de l'école de journalisme de Tours sur Radio Campus. On ouvre maintenant notre page internationale avec quelques brèves d'actualité. Indonésie, Paris demande le retour immédiat de Serge Atlaoui dont la santé se détériore. Accusé de trafic de drogue, le Français de 61 ans avait été condamné à mort en 2007 par les autorités indonésiennes. Des accusations qu'a toujours réfutées le père de famille. Les secours s'affairent pour retrouver les survivants après le terrible séisme survenu au Tibet. Plus de 12 000 sauveteurs bravent le froid et l'altitude depuis plusieurs jours dans le pays pour retrouver les survivants. Le dernier bilan officiel du séisme s'élève à 126 morts. Les secousses ont provoqué l'effondrement de milliers de bâtiments sur tout le territoire. Et restons sur le continent asiatique et c'est l'heure de la chronique Asie. Et le jingle n'est pas là, donc on va y aller. La Corée du Sud traverse une crise politique majeure. Les institutions sont, comme dire, sous pression et une contestation massive s'étend dans tout le pays. Camille, dites-nous quels sont les enjeux de cette situation explosive ?
En Corée du Sud se joue une crise politique d'une intensité rare, un véritable chaos. Au centre de la tourmente, le président conservateur Yoon Suk-yeol, destitué par l'Assemblée nationale et accusé d'insurrection, d'abus de pouvoir et d'entrave à la justice.
Pourtant, loin de céder, il se bat, promettant à ses partisans de résister jusqu'au bout. Yong Suk-yul sera-t-il finalement arrêté ?
Mardi dernier, le bureau d'enquête sur la corruption des hautes personnalités, ou plus communément appelé CIO, a obtenu la prolongation d'un mandat d'arrêt contre le président. Mais il est épaulé par une garde présidentielle loyale qui repousse les enquêteurs. C'est ce qu'on a notamment vu lors d'une confrontation très tendue. Ce service reste totalement dévoué au président et dirigé par l'un de ses proches, le général Kim Jong-un, soupçonné d'être l'architecte de la déclaration controversée de la loi martiale. Sur le plan légal, les fronts se multiplient. Le CIO n'est pas seul à enquêter. La police, le ministère de la Défense et même le parquet du district central de Séoul participent à ce qu'on pourrait appeler une véritable guerre judiciaire.
Mais cette fragmentation des institutions, elle crée des rivalités. Qui coordonne et qui décide ?
Les avis divergent et continuent d'alimenter un climat de confusion. Ajoutons à cela l'opposition démocrate qui agit sur le terrain parlementaire. Commission spéciale, débat houleux, vote rejeté. L'Assemblée nationale est en pleine ébullition. Une commission spéciale enquête sur la légalité de la loi martiale tandis qu'une autre examine les accusations de corruption contre la Première Dame. Et au sommet de ce chaos juridique, la Cour constitutionnelle s'apprête à ouvrir les plaidoiries sur la destitution de Yoon Suk-yeol, un procès où tout pourrait basculer mais qui prendra des mois avant de rendre son verdict. En attendant, le président conserve des soutiens solides. Sa popularité a bondi de 40% dans le pays. Ses partisans voient en lui un rempart contre une opposition jugée opportuniste. Mais ses adversaires dénoncent un homme prêt à piétiner la démocratie pour rester au pouvoir. On se demande si cette crise politique entre polarisation extrême et institutions dépassées marque une fracture dans la société sud-coréenne. Les prochains mois seront décisifs. Une chose est sûre, la bataille à la fois politique, judiciaire et médiatique ne fait que commencer.
Thank you. Merci Camille, on change maintenant de continent, direction l'Afrique, au cœur de l'actualité cette semaine, et voici quelques brèves. Au Tchad, une attaque contre le palais présidentiel à N'Djamena fait 19 morts mercredi. Un commando armé de 24 personnes a tenté de prendre le contrôle du bâtiment des autorités tchadiennes avant d'être maîtrisé par la garde présidentielle. La situation est désormais sous contrôle selon le gouvernement. 28 soldats tués au Bénin à la frontière entre le Niger et le Burkina Faso dans une attaque terroriste. L'assaut est le plus meurtrier dans le pays depuis 2021. Les attaquants ont visé une position des forces de défense et de sécurité béninoises. Les soldats appartenaient tous au dispositif antiterroriste Mirador. Transition parfaite, l'heure d'introduire une chronique Afrique. Alors que la situation au Soudan ne s'améliore pas depuis 2023, les États-Unis viennent d'accuser les forces de soutien du général Hemeti de génocide, une prise de position forte et rare pour le gouvernement Biden face à une situation qui semble indéfaisable. Rebonjour Camille.
Bonjour Baptiste.
Alors, est-ce que cette prise de position des États-Unis pourrait changer la face de ce conflit ?
Le secrétaire d'État américain Antony Blinken compte bien régler le problème soudanais. Les États-Unis sont déterminés à faire en sorte que les auteurs de ces atrocités en soient tenus responsables, a-t-il déclaré sur X. C'est la 9e fois de son histoire qu'un gouvernement américain emploie le mot « génocide ». Ça avait été le cas pour la Bosnie-Herzégovine, le Rwanda ou encore la Birmanie. Ces accusations s'accompagnent de la menace de futures sanctions contre les paramilitaires du RCF, comme l'interdiction de se rendre sur le sol états-unien ou encore le gel des avoirs du chef des RSF, Mohamed Hamdame Daglo, appelé aussi Hemeti. Sept entreprises sont aussi visées par des sanctions pour avoir financé et donné des équipements militaires à cette milice.
Et j'ai raté... Mais accusés, non, c'est celle d'avant, mes excuses. Sur quoi sont fondées les accusations des États-Unis, Camille ?
Blinken accuse les forces de soutien rapide d'avoir systématiquement tué des hommes, des jeunes garçons et même des nourrissons du fait de leur origine ethnique. Ils auraient aussi ciblé les femmes de certains groupes ethniques et leur ont fait subir des viols et d'autres formes de violences sexuelles, selon un communiqué de l'administration américaine. Pour rappel, depuis avril 2023, les forces armées soudanaises d'Abdel Fattah al-Burhan dirigent de facto, s'opposent aux milices de RCF de Hemeti. Al-Burhan prend la tête du pays après un coup d'État en octobre 2021. Les tensions entre les deux camps sont nées alors que l'unité paramilitaire autonome de FCR n'a pas voulu intégrer l'armée nationale.
Alors, mais accuser les RSF de génocide, c'est en quelque sorte prendre parti pour les forces armées soudanaises, Camille ?
Eh bien, pas vraiment. Le secrétaire d'État américain a bien précisé, les États-Unis ne soutiennent aucun des deux camps et nos actions contre le FCR ou Hemeti ne signifient pas un soutien en faveur des forces armées soudanaises. Les deux belligérants portent la responsabilité des violences et souffrances dans le pays.
Oui, donc on parlait bien des RSF. Le bilan humain reste compliqué à déterminer, mais ce conflit au Soudan a causé le déplacement d'entre 8 à 15 millions de Soudanais. La virgule, toujours. Et place à l'Amérique à présent avec deux informations qui ont fait l'actualité cette semaine. Incendie à Los Angeles, au moins 10 morts et près de 200 000 habitants forcés à fuir. Les autorités redoutent l'une des catastrophes naturelles les plus destructrices de l'histoire de la ville. Plus de 10 000 hectares sont d'ores et déjà partis en fumée. Au Venezuela, l'opposition dénonce l'arrestation de sa chef de file, Maria Corina Machado, à la suite d'une manifestation contre l'investiture du président Nicolas Maduro à Caracas jeudi. Elle aurait été relâchée quelques heures plus tard. Le gouvernement dément, lui, toute implication. Et aujourd'hui, c'est Jules qui nous emmène de l'autre côté de l'Atlantique avec la chronique Amérique. Bien que ce sujet n'ait pas besoin de voyager puisque tout se passe sur X autour d'Elon Musk, de son supposé alter ego, des influenceurs pro-Trump et de la censure.
Exactement, ouais. Mélangez le tout, ajoutez une pincée de sel et de dérive mégalo-autoritaire et vous obtenez une bonne histoire à raconter pour un vendredi matin. Petit tour de table pour commencer, est-ce que vous connaissez Adrian Dittmann ?
Non.
Absolument pas.
Eh bien c'est normal parce qu'il y a encore un an, pour le commun des mortels, Adrian Dittmann était inconnu. Bien que fort d'une petite communauté sur X, Adrian semblait être un tweetos, juste un peu fan d'Elon Musk. Quand je dis un peu fan, ça veut dire qu'il commentait régulièrement les posts du milliardaire, soutenait systématiquement ses discutables prises de position, calquait son humour et sa rhétorique sur la sienne, allant même jusqu'à féliciter publiquement Elon pour être un merveilleux papa. Oui, rappelez-vous, Elon Musk a une douzaine d'enfants de trois mères différentes, dont le sagement nommé XAEAXII, prononcé X Ash 12 et ses deux petits frères, Exadark Sidéral et le petit dernier, Techno Mechanicus. C'est quand même autre chose que d'appeler son fils Thomas. Maintenant, quel est le point commun entre notre cher Adrian, la censure et Donald Trump ? Bougez pas, j'arrive. Adrian intervenant dans des visioconférences publiques sur X, des internautes ont fait le rapprochement entre les deux hommes par la similarité de leur timbre de voix notamment. Adrian Dittmann serait donc un compte secondaire secret utilisé par l'homme le plus puissant du monde pour flatter un ego fragile sur un réseau social qui lui appartient. Mais si ce n'était que ça. Dans cette affaire où il est encore à l'heure actuelle compliqué de déceler la vérité, Elon Musk lui-même semble vouloir entretenir le doute. La poudre a pris feu il y a deux semaines après une vague de bannissement de X d'influenceurs Make America Great Again. Donc proche de Trump. La source de la Discord, un désaccord avec Elon autour d'un visa d'immigration nécessaire aux entreprises de la Silicon Valley pour attirer des cerveaux étrangers, le H-1B. On le sait tous, l'immigration donne de l'urticaire au pro-Trump et Adrian Dittmann, fidèle à son gourou, a naturellement défendu le visa d'immigration contre Laura Loomer, une activiste et amie de Trump. Très rapidement, elle et d'autres figures de la droite américaine ont été dépouillées de leur certification, sans laquelle il est impossible de monétiser ses contenus sur X. Tout ça pour avoir critiqué la position de Musk sur l'immigration qualifiée.
Donc, si je résume, Laura Loomer, cette influenceuse pro-Trump, elle a été en quelque sorte punie par Elon Musk pour l'avoir critiquée auprès de son fan numéro 1 ?
C'est exactement ça.
Difficile dès lors de ne pas faire un lien entre Adrian et Elon.
Et pourtant, c'est pas la conclusion de Jacqueline Sweet, qui est journaliste pour le quotidien anglais The Spectator et qui est parvenue à identifier Adrian comme une vraie personne vivant aux Fidji, dans un article paru le 4 janvier qui est malheureusement plus disponible. La journaliste qui avait débunké l'affaire Dittmann avait vu dans un premier temps son compte X bloqué après la publication de l'information sur le réseau. Comme une ultime provocation, Elon Musk y avait répondu sarcastiquement qu'il est bel et bien Adrian Dittmann et qu'il était temps que le monde le sache. Si la lumière sur la relation Dittmann et Musk n'a pas été faite à ce jour, cet épisode aura su nous prouver une fois de plus du danger que représente la toute-puissance de Musk sur un canal d'information comme X. Qui plus est, depuis sa récente promotion au futur gouvernement Trump, duquel certains le qualifient de président de l'ombre.
Merci Jules Bourbotte, une affaire effectivement bien curieuse. Et on clôture cette page internationale par une pause musicale avec Picture of Girl de Wallows.
Suburbs, now you've gone, the city's done a number. It is not the same without you around. Oh. Down
d'écouter Pictures of Girls de Wallows. Vous êtes toujours dans Good Morning Tour, il est 7h42 passé, l'heure du second flash info de Victoire Renard de Winter.
Dix morts à Los Angeles, le feu ravage depuis maintenant 3 jours la mégalopole du sud-ouest des États-Unis. 400 pompiers en renfort arrivent pour maîtriser l'incendie. Trump, en revanche, s'empare de la catastrophe pour attaquer le gouverneur démocrate de Californie, ainsi que Joe Biden, déclarant l'incompétence de leur gestion de crise. 2024, l'année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde depuis le début des relevés en 1850, un chiffre donné par l'observatoire Copernicus. La hausse des températures est de 1,5 degré depuis l'ère pré-industrielle. 11 départements en vigilance orange jusqu'à 10h, 3 départements en alerte neige-verglas, le reste en vigilance crue. Le transport scolaire et périurbain reste toujours perturbé en ce vendredi matin. Le président français était au Royaume-Uni hier soir et il a rencontré le Premier ministre britannique Keir Starmer. Leur discussion portait sur le soutien prolongé à l'Ukraine dans la guerre. Un sujet évoqué en Italie avec le président ukrainien lui-même, venu réclamer plus d'aide et de troupes occidentales. Volodymyr Zelensky a reçu le soutien de Giorgia Meloni avec Donald Trump à la Maison-Blanche. Kiev craint de perdre le soutien des États-Unis. Il promet une nouvelle ère. Joseph Aoun vient d'être élu nouveau président du Liban après 2 ans d'instabilité politique. Le commandant en chef de l'armée libanaise est soutenu par les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Emmanuel Macron annonce qu'il se rendra sur place prochainement.
Merci Victoire, il est 7h44, toujours sur 99.5 FM. Et il est temps de parler santé, mais surtout bonne résolution avec Alia Trabelsi.
En effet, Baptiste, depuis le 1er janvier, l'opération Dry January est lancée partout en France. Et après les fêtes, souvent synonymes d'excès, c'est le défi parfait afin de se reprendre en main. Alors le Dry January, c'est quoi ? C'est un défi plutôt récent qui a fait son apparition en France en 2020 et qui consiste à tout simplement ne pas consommer de boissons alcoolisées durant tout le premier mois de l'année. Bon, alors dit comme ça, c'est un jeu d'enfant, mais en réalité, Baptiste, c'est tout un processus qui est mis en place. Car l'alcool, je le rappelle, c'est une vraie drogue remplie de substances psychoactives. Donc même si sa consommation est mondaine, il reste difficile de s'en passer.
Mais alors, ce challenge, concrètement, est-ce qu'il a des vrais bienfaits pour la santé du consommateur ou ce n'est au final qu'un simple acquis de conscience ?
Eh bien, les associations et professionnels de santé sont tous formels, c'est un vrai cadeau pour la santé. En seulement 31 jours, les résultats sont flagrants. Les participants déclarent avoir retrouvé une meilleure forme, une plus jolie peau, mais aussi, pour beaucoup, avoir perdu du poids. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, 71% d'entre eux déclarent mieux dormir. Des arguments qui ont su convaincre déjà plus de 4,5 millions de Français l'année dernière.
Et le portefeuille, lui, qu'est-ce qu'il en pense, Alia ?
Alors, pour ce qui est du portefeuille des participants, il est franchement reconnaissant. Car pour en moyenne 10 litres d'alcool consommés par an pour un Français, on parle de plus de 700 euros de dépenses, l'équivalent finalement d'un loyer moyen en France. Cette surconsommation la doit en grande partie au lobby de l'alcool, omniprésent sur le territoire français. Et les résultats de cette influence collective, ils ne sont vraiment pas à minimiser. Car malgré une prise de conscience des Français et une baisse significative de la consommation d'alcool depuis quelques années, l'alcool reste la deuxième cause de cancer en France, avec plus de 28 000 cas chaque année, mais aussi la cause d'un tiers des accidents de la route, arrondissant donc le chiffre de décès lié à la boisson à 48 000 morts chaque année.
Et donc, pour relever le défi, Alia, comment ça se passe ?
Alors, pour relever le défi, il est possible de s'inscrire sur le site dryjanuary.fr afin de suivre pas à pas sa suspension de consommation, mais aussi de le relever en famille ou entre amis afin de se motiver les uns les autres et maîtriser au final, comme 80% des participants de 2024, sa consommation tout le reste de l'année.
Merci beaucoup, Alia Trabelsi, pour cet éclairage. Il est 7h46 sur Good Morning Tour, l'heure de la chronique média, présentée par Jules Frécon. Il y a 10 ans, le 7 janvier 2015, un attentat ciblait la rédaction du journal Charlie Hebdo.
Pour commémorer ce triste anniversaire, France 2 diffusait cette semaine Charlie, envers et contre tout, un documentaire dans les coulisses du journal. Pendant plusieurs mois, en 2024, les réalisateurs ont enregistré les journalistes de l'hebdomadaire. Des conversations et des témoignages des équipes de Charlie ont été assemblés pour créer ce film un peu spécial. Car seul du son a été pris dans les locaux de Charlie Hebdo. Aucune image n'a été tournée pour des raisons de sécurité. Les réalisateurs du film ont donc superposé les enregistrements sur des images tournées dans un décor ou encore sur les illustrations faites par les dessinateurs de Charlie. Le son suffit pour rendre compte des coulisses d'une rédaction.
Cela veut dire que d'autres médias ont déjà fait des documentaires similaires à celui dont vous parlez ?
Oui, avec de la vidéo, mais le concept reste le même. C'est par exemple le cas de France Info, une station que j'aime beaucoup. Deux films qui montrent le travail de la rédaction pendant des élections ont été réalisés. Service public, sorti après le scrutin présidentiel de 2022, et Service public front contre front, sorti en décembre 2024, après les législatives. Les périodes d'élections semblent être propices à la réalisation de ce type de film, en immersion dans les médias. En 2017, année présidentielle, Mediapart accepte de faire filmer le quotidien de ses journalistes. En 2012, Le Monde faisait de même, avec pour résultat la sortie du documentaire Les gens du monde, qui montre le travail de sa rédaction durant la campagne présidentielle.
Et qu'est-ce qu'on apprend en regardant ces films, Jules ?
Eh bien, on apprend par exemple que les journalistes du Monde débattent beaucoup, notamment sur les titres de une, et notamment sur celui-ci, pendant la campagne de 2012. Mélenchon-Le Pen, le match des populismes. Les titres de une sont aussi source de débats chez Libération. Cette semaine, l'émission Quotidien a filmé la conférence de rédaction du 7 janvier, jour de la mort de Jean-Marie Le Pen. On comprend alors que le titre de une du lendemain, Maréchal, le voilà, a été le résultat d'une heure de discussion entre journalistes. En découvrant les coulisses de la fabrique de l'information, on apprend aussi que chez France Info, la programmation des invités politiques est un vrai casse-tête en période électorale, puisqu'il faut respecter les règles fixées par l'ARCOM. Enfin, chez Charlie, on remarque que l'humour noir concerne aussi sa propre histoire.
Yann Diener, qui est donc notre chroniqueur, psychanalyste chroniqueur, qui a pris le... je sais pas s'il faut dire la relève, en tout cas qui a pris la suite, d'Elsa Kayat, la psychanalyste de Charlie, qui est décédée lors des attentats du 7 janvier.
Je vois que tu veux dire quelle mort tu remplaces aussi.
En filmant les reporters sur le terrain, les conversations et débats dans les rédactions, les documentaires cités dans cette chronique démystifient le travail des journalistes. Et alors qu'en 2023, 57% des Français se méfiaient des médias, selon le baromètre établi par La Croix, ces volontés de transparence ne peuvent qu'être bien accueillies.
Merci Jules. Charlie, envers et contre tout, est disponible en replay sur le site de France TV. Service public, front contre front, sont également visionnables sur LCP jusqu'au 30 janvier. Et on compte sur les M2 de l'EPJT pour voir la journaliste Salia Braclia, co-réalisatrice de ce documentaire, en conférence à l'EPJT cette année. Mmh. 7h49, on revient dans quelques instants après une courte pause, tout de suite, If the World is Ending de Beginner.
Decisions while we own.
d'écouter If the World is Ending de Big Einer. Il est 7h52 sur Good Morning Tour. Et bah, il est maintenant l'heure de la chronique sport présentée ce matin par Mathis Maudet. Tout de suite, la chronique sport de Mathis Maudet. Didier Deschamps n'entraînera plus l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026. Depuis que l'entraîneur des Bleus s'est exprimé sur le plateau de LCI mercredi, une question est sur toutes les lèvres, Mathis, qui sera son successeur ?
Eh oui, Baptiste, 67 millions de Français et presque autant de sélectionneurs dans le pays. Quand il s'agit de l'équipe de France de football, chacun a son mot à dire. Parmi les noms qui circulent pour reprendre la tête des Bleus après la Coupe du Monde 2026, on entend, on attend tous, Zinedine Zidane. Zizou. Qu'il revienne titrer l'équipe ce mercredi pour sa une. Car Zizou occupe une place importante dans le cœur des Français, artisan de la première Coupe du Monde remportée par les Bleus en 1998 contre le Brésil, son doublé reste dans les mémoires. Mais Zinedine Zidane est aussi légitime en tant qu'entraîneur. De 2016 à 2018, il a coaché le Real Madrid et remporté 3 Ligues des Champions d'affilée, une première pour un entraîneur. Si le président de la Fédération Française de Football, Philippe Diallo, choisit Zidane, on criera à l'évidence.
À moins que le choix ne se porte vers un autre champion de 98, Mathis.
Eh bien oui, au vu de son parcours, ce serait logique de voir Thierry Henry succéder à Didier Deschamps, entraîneur adjoint de l'équipe de Belgique de 2016 à 2018, puis de 2021 à 2023. Il connaît les problématiques internes d'une sélection nationale. Actuellement, Thierry Henry est déjà sélectionneur de l'équipe de France, mais des joueurs de moins de 23 ans, l'équipe espoir. L'été dernier, il a d'ailleurs mené l'équipe de France olympique jusqu'en finale. Prendre la tête de l'équipe A serait donc la suite logique.
Mais depuis 2012, Didier Deschamps est bien le seul qui supervise la Maison Bleue à Clairefontaine, Mathis.
Et quel chantier, Baptiste. Quand il a repris la sélection, les Bleus sortaient de 2 échecs sportifs cuisants. D'abord Knysna, la grève des joueurs de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2010, éliminée dès les phases de groupe, puis un Euro 2012 raté. En basant son coaching sur le collectif, Deschamps est parvenu à remettre l'équipe de France sur de bons rails, en se qualifiant in extremis pour la Coupe du Monde 2014, terminée en quart de finale, seulement battue par les Allemands, futurs vainqueurs de la compétition. Et malgré un style de jeu parfois jugé trop maîtrisé, sans folie, les suiveurs sont unanimes sur sa qualité d'entraîneur. À sa tête, l'équipe de France a remporté sa deuxième Coupe du Monde en 2018, la Ligue des Nations en 2021 et atteint la finale de l'Euro en 2016.
Et l'ère Didier Deschamps n'est pas encore terminée. Avant de quitter la tête de la sélection, il pourrait encore remporter la Ligue des Nations en 2025 et pourquoi pas ajouter une troisième étoile sur le maillot bleu en 2026. Merci Mathis Maudet. Pour finir cette émission, Angelina Richard est en studio avec nous ce matin et elle nous parle des résolutions prises en ce début d'année 2025.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Déjà, bonne année. On est tous très contents et contents de vous retrouver ce matin. Alors, qui dit nouvelle année, dit l'inévitable rituel des résolutions. Les premières traces de cette tradition remontent à la civilisation babylonienne. Lors de leur célébration de l'Akitu, une fête marquante du nouvel an au printemps, les Babyloniens ont fait des promesses à leurs dieux pour gagner leur faveur. Ils s'engagent par exemple à rembourser leurs dettes ou à restituer des objets empruntés. Ces promesses étaient vues comme des moyens de garantie la prospérité et la protection divine pour l'année à venir. Leur fête durait, eux, 10 jours. On est loin de notre réveillon du 31 décembre. Certaines résolutions reviennent chaque année.
Alors moi, du coup, ma résolution pour l'année 2025, c'est d'arrêter de fumer. Et pour y arriver, je vais m'inscrire à une course en mai. Comme ça, je vais être obligée de courir, obligée d'arrêter de fumer, parce que sinon, je me taperai la honte.
L'arrêt du tabac est d'ailleurs le numéro 1 des bonnes résolutions. Pourtant, je suis désolée de vous l'apprendre, mais 9 personnes sur 10 ne tiennent pas ces résolutions. Donc pas de culpabilisation si ça ne marche pas. Le tabac suivi des résolutions plus générales autour de la santé comme...
Ma bonne résolution pour 2025, c'est d'aller chez le psy pour être une meilleure version de moi-même.
Et oui, aller chez le psy, c'est une bonne façon de prendre soin de soi, de son esprit et de son corps. Cela commence enfin à se démocratiser et à devenir dans la norme. D'ailleurs, avec le dispositif Mon Psy, vous pouvez avoir 12 séances remboursées par an par la Sécurité sociale et ça, sans ordonnance. Il suffit juste de trouver un psychologue ou une psychologue sur ce dispositif. Il y a toutes aussi les inspirations personnelles, comme apprendre une nouvelle langue, se lancer une nouvelle activité, passer moins de temps sur les écrans. Et en vrai, c'est intéressant si ce début d'année vous permet de pousser d'autres pas sur des envies encore un peu timides. Mais est-ce que la résolution numéro 1 ne devrait pas être...
Alors moi, pour 2025, j'ai pas forcément d'attente particulière. Simplement passer des bons moments avec les gens que j'aime, ma famille, mes amis, tous mes proches, et évidemment la santé pour moi et mon entourage, et continuer de kiffer la vie sans se prendre la tête.
Car oui, les résolutions, aussi bienveillantes soient-elles, sont souvent teintées d'un parfum de culpabilité collective. La société nous pousse à être meilleurs et plus productifs, à croire que l'année précédente n'était qu'un brouillon de notre vie. Aussi, ce mois de janvier nous pousse à la consommation, à vouloir acheter un nouveau vêtement de sport pour perdre du poids, comme si faire du 44 ce n'était pas bien, ou alors des nouveaux vêtements pour avoir un nouveau style. Le capitalisme s'approprie nos ambitions pour les transformer en une opportunité commerciale. Alors je propose plutôt un état d'esprit, que l'on se dise ce pourquoi on est reconnaissant et reconnaissante, et ce qu'on aimerait garder pour cette nouvelle année comme...
Alors pour ma part, 2024, ça a vraiment été l'année des rencontres. Je me suis fait plein de nouveaux copains, j'ai rencontré mon amoureux, et c'est aujourd'hui des gens du coup que j'aime de tout mon cœur, et je suis extrêmement reconnaissante pour ça. Et du coup, en 2025, j'espère que ça va continuer comme ça, que je vais continuer de faire de belles rencontres et de passer plein de temps du coup, avec tous ces gens que j'aime.
Et toi, Baptiste, qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2025 ?
Alors, comme beaucoup de mes camarades derrière cette vitre, un petit contrat à la sortie du master serait une très bonne chose pour toutes et pour tous.
Très bien, je te le souhaite et je nous le souhaite.
Merci, Angelina, pour ton billet d'humeur. À chacun ses résolutions et sa façon de voir le début d'année. Il est 7h59 et 24 secondes sur Good Morning Tour et c'est déjà l'heure de se quitter pour aujourd'hui. Je remercie toutes les personnes qui ont permis à cette émission de voir le jour ce matin. Victoire, Juliette, Camille, Jules, Alia, Mathis, Léo, Angelina et Marion. Et sans oublier à la technique Gabriel. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle matinale, toujours sur 99.5 FM. Prenez soin de vous, agréable journée à toutes et à tous.